Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur l'onde de fronde.
Salut, vous êtes sur l'onde de fronde et ce soir, on fait une émission sur le punk. Alors, une émission un petit peu à retardement, puisqu'on avait eu cette idée il y a au moins 2 ans. On voulait... on avait fait 2 ou 3 émissions sur des courants musicaux, sur le blues, sur la disco... Et on avait très envie d'inviter Manon Labrie, qui avait écrit un livre qu'on avait trouvé très chouette, qui s'appelait Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe. Et puis ça, ça n'avait pas pu se faire pour des raisons matérielles, et l'idée avait été plus ou moins oubliée, et le livre est réapparu... dans un déménagement, et on a eu à nouveau... cette envie. Cette émission, du coup, c'est une émission confinée. On va donc, du coup, discuter avec Manon Labrie et avec Calypso de punk ce soir.
Ce soir, Langue de fronde, l'émission féministe de Fréquence Paris Pluriel se passera entre Saint-Denis, Bordeaux, Toulouse et la Bourgogne. Et on en profite pour dire bonjour à toutes les frondeuses qui ne sont pas avec nous maintenant.
Salut, salut!
Hello.
Moi c'est Yo.
Gab.
Po. Calypso.
Et voilà. Merci à toi Manon. Après 2 ans d'avoir on a mis un peu de temps à te relancer, mais en dehors du fait d'avoir écrit le bouquin Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe, je te laisse te présenter.
J'ai jamais écrit un second aussi, qui s'appelle Pussy Riot Girls, qui parle un petit peu de la suite aussi. Et puis sinon, accessoirement, je fais aussi partie d'un groupe, pas de punk, mais parmi les casquettes que je dévoile.
Il s'appelle comment, le groupe où tu joues ?
No Milk Today, pas de lait aujourd'hui, comme la chanson.
Comme quelle chanson ?
Oh, comme une vieille chanson de Herman Hermes. Today.
Allez. Et on a avec nous, par ordinateur.
En duplex.
Voilà, c'est ça. Dans le studio.
Virtuel.
Virtuel, mais bien là. 2 autres personnes.
Ouais, moi je suis depuis le duplex de Lyon. Voilà. Et je fais partie donc de Front, sinon accessoirement. Et je faisais aussi partie de ce crew qui voulait parler punk. Voilà, et on a à côté de nous, tout près, en duplex de Bordeaux.
Ouais, ouais, nous aussi, on aime les 3, on en a 2, 3, 3. 33 coups. Salut, salut. C'est Calypso, de Bordeaux, Bordeaux, bordel.
Eh ben, merci Calypso d'être avec nous. Toi, c'est un peu une première aussi à Langue de Fronde.
Ah, moi, c'est carrément la première fois que je parle à Langue de Fronde, donc je suis enchantée.
Et c'était
et
aussi
super
de...
excitée et en même temps aussi un peu intimidée aussi.
L'idée, c'était on avait envie de parler punk ensemble aussi ce soir.
Yes, on veut parler punk, ouais. Et Riot Girl, il me semble. Et moi, je suis chanteuse du groupe de Championne, un groupe Riot Girl de Bordeaux. Je ne sais pas si on pourrait nous qualifier de punk, ça dépend, mais pour moi, on est des punks, ouais. Pour moi, on est des punks et des Riot Girls.
Ok, bon, on va causer tout ça alors.
Parce que yes. Ça fait quelques années qu'il est sorti ce bouquin, Manon. J'imagine que tu as fait déjà quelques petites présentations, quelques petites discussions autour de...
Non, oui, il est sorti en 2016 en fait. Puis il a été suivi l'année d'après par le deuxième Pussy Riot. Mais bon, tout ça reste très frais, car toujours très vivant dans mon cœur. Et toujours beaucoup d'actualité aussi. Donc je pense qu'on devrait arriver à avoir un dialogue fructueux si la technologie nous le permet.
Yes.
Et ouais, et moi, avec, à cause de toutes ces conneries de corona, j'ai pas pu voir Bikini Kill à Barcelone avec ma bande.
Et oui, ils ont remis la partie à Paris en mai. Bon, il faut espérer que ce coup-ci, ce sera possible.
Voilà.
Alors justement, parlons-en de Bikini Kill. C'est un groupe qui prend énormément de place dans le mouvement Riot Girls. Est-ce que on peut commencer par là, peut-être ?
Oui, carrément. Mais en effet, c'est le groupe qui est sans doute le plus connu du courant, même si à l'origine, sans doute, il ne voulait pas prendre autant de place que cela, puisque c'était un courant qui se voulait vachement horizontal et qu'ils ont été érigés en leader très rapidement. Mais bon, en tout cas de cause, c'est quand même grâce aussi à Bikini Kill que les autres groupes ont germé, puisqu'en fait la batteuse Toby Veil a commencé par écrire un fanzine à la fin des années 80 qui s'appelait Jigsaw et qui a pas mal catalysé les énergies en fait, parce que c'est un mouvement musical mais pas exclusivement musical, féministe, qui s'est appuyé aussi sur le fanzina. Et puis il y a aussi qui s'est aussi structuré comme un mouvement plus traditionnellement politique en s'organisant en collectif un peu partout aux États-Unis d'abord, puis au Canada, en Angleterre et puis plus globalement dans le monde. Mais donc qui prenait le support de la musique punk et du do it yourself pour diffuser leurs idées féministes anticapitalistes. Mais encore une fois, il ne faut pas le réduire à un courant musical, on va peut-être en reparler. Et donc, en fait, il émerge au tout début des années 90, dans un contexte américain où déjà, on sent qu'il y a un public qui est vraiment en souffrance de jeunes femmes qui ne trouvent pas de modèle qui leur correspond. Alors, on voit déjà cette attente dans le succès qu'ont pu avoir des groupes comme L7 qui précèdent de quelques années les Riot Girls, bien comme Baby Boyland ou Seven Year Beach, tout ça. Enfin, c'est difficile aussi pour ces jeunes femmes à l'époque de s'identifier en tant que entre elles, je veux dire, en tant que jeunes femmes qui partagent les mêmes idées féministes, anticapitalistes. Et donc, en fait, tout ça pour dire que ce fanzine Jigsaw, il va permettre à pas mal de ces jeunes féministes de se mettre en relation, en fait, et de commencer à correspondre. Et c'est aussi comme ça que naîtront d'autres groupes que Bikini Kill. Et là, je pense à Bratmobile ou à Evans to Etsy, qui vont émerger dans la même ville, Olympia, dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Mais donc voilà, Bikini Kill, on va dire que c'est vraiment le premier à s'être lancé. Et c'est aussi un des groupes qui va produire le plus en termes d'écrit, pas uniquement musical, mais aussi en termes de fanzine. Bon, j'ai fait un peu long, excusez-moi, mais je pensais qu'il fallait un petit peu rappeler juste brièvement ce que c'était que ce courant Riot Girls, parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
Oui, c'est important. C'est sûr.
Merci. Est-ce qu'on se lancerait pas justement un petit Bikini Kill?
Oui, ça peut être une bonne idée.
Ça peut être une idée.
Allez, chouette. How do they ask for? The way they act, the way they... I can't say the way they dress, because that's an own personal choice. Some dumb hoe that you butt rock your face is walking down the street. They're asking for it and they deny it, but it's true. Yeah.
White du coup, est-ce que tu peux nous dire de quoi elle parle
Oui, ben, donc, comme son nom l'indique, White Boy, c'est une chanson sur, sur les garçons blancs. Et puis, ben, alors, c'est une chanson qui leur a valu, qui leur a valu pas mal d'agressions et de problèmes en tournée, etc. Parce que elles sont assez frontales. Quand elles disent White Boy, ne pleure pas, meurs juste. Ça commence, je sais pas si. Il me semble que oui, ça commence par un extrait où, où on entend un garçon qui parle de, du fait que, ben, en gros, que des filles qui s'habillent en jupe, elles, elles le cherchent.
J'ai le texte.
Donc voilà, et donc c'est un pamphlet contre l'esprit, ben, l'esprit sexiste et macho du garçon blanc.
Okay.
C'est ça. Qui pense comme un garçon blanc et qui pense que les femmes sont comment dire sous leur ordre quoi. Enfin sont sont là pour eux quoi. Un peu en gros.
Oui. Bah après enfin. Ouais, en gros, c'est une dénonciation du patriarcat, voilà, pur et simple. Et puis, ben, alors, c'est ce qui est, moi, je trouve super nouveau, c'est que c'est hyper frontal et que c'est aussi pour ça que ça va être un groupe qui va faire beaucoup parler de lui, parce que, ben, voilà, c'est sans pamfreluche, la dénonciation, elle est crue. Elle va donc, comme je disais, leur valoir de pas se faire bien accueillir pendant toute une partie de voire toute la durée de l'existence du groupe. Ça a été compliqué de faire passer ces messages qui, par ailleurs, pouvaient être ils n'étaient pas tous ils étaient tous frontaux, mais c'était aussi dit avec humour, on l'a beaucoup oublié, enfin pas celle-là, hein, mais dans d'autres chansons, c'est le cas. Mais enfin voilà, c'est un groupe qui a toujours été extrêmement frontal par rapport à d'autres groupes comme Bradmobile, qui était plus, on va dire, dans l'ironie, etc. Un Bikini Kill, ce qui les caractérise et ce qui fait que ça a sans doute été aussi le groupe qui a été le plus connu et mis en... et mis sous le feu des projecteurs, que c'était extrêmement confrontationnel, si je puis dire.
Dans la chronique, tu fais mention du FBI qui visiblement suivait leurs activités avec intérêt.
Oui, non, mais alors ça, en fait, c'est pas vrai. Hein.
Ah ouais, c'est vrai? Ah, je croyais, punaise, ça avait l'air tellement crédible.
Apparemment, il y a plein de gens qui l'ont cru. Non, en fait, quand je parle
c'est une blague.
FBI, c'est un clin d'œil à un film qui, je pense, les a vachement inspirés. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre de clins d'œil et de correspondances qu'il y a. C'est un film qui est sorti en 83 et qui s'appelle Born in Flames, et où là, pour le coup, le FBI est sur le dos des protagonistes qui montent un gang. Voilà, mais non, mais pas que je sache, en tout cas, de toute façon, j'ai pas accès au dossier du FBI, mais quand j'en parle, c'est une blague et un clin d'œil à Born in Flames.
Ok, ok. Bon, je l'avais pris au pied de la lettre, tant pis pour moi.
Je trouvais ça. C'est fort possible aussi, de toute façon.
Ouais. Non, mais du coup, est-ce qu'effectivement, on peut revenir finalement sur qu'est-ce que c'est que les Riot Girls? Effectivement, tu décris ça comme un mouvement, etc. Mais alors, finalement, contre quoi elles se construisent? Alors, tu disais les années 90, fin des années 80. Du coup, oui, c'est quoi la scène musicale? C'est quoi le contexte politique? Est-ce que tu peux nous faire nous dresser le portrait un petit peu de cette période?
Oui, bien sûr. La première étincelle, comme je le disais, c'est dans la ville d'Olympia, dans l'État de Washington. Et à cette époque-là, à partir du milieu des années 80, tout le nord-ouest des États-Unis, ce sont des scènes musicales extrêmement vivantes, très aventureuses. Notamment Olympia, qui est une ville qui vraiment a à cœur les idées et les outils du do-it-yourself. Et donc, bah, de Seattle à Olympia, en passant par Portland ou Eugene, il y a vraiment une quantité de groupes ahurissantes qui se produit dans cet esprit do-it-yourself, DIY, et qui est, on va dire, décomplexé par rapport à la création musicale, etc. D'autre part, il y a aussi des prémices, comme je disais, avec des groupes comme L7 ou comme les Lunatics ou comme Baby Toy in Toyland qui fournissent à ces jeunes femmes qui vont devenir les Riot Girls de nouveaux modèles dans le domaine de la musique punk et qui, donc je le disais, rencontrent un certain succès et qui commencent à aborder aussi des choses que vont développer les Riot Girls dans les thèmes de leurs chansons ou dans leurs fanzines. En gros, on va dire que la démarche des Riot Girls, elle naît de frustration ou d'aliénation. La première, sur ce qu'elle partage avec le reste de la scène punk, c'est une aliénation par rapport au monde capitaliste. La seconde, c'est malgré tout une aliénation par rapport à leur propre scène musicale. Puisque même si aux origines du punk il y a vraiment un idéal égalitaire et d'horizontalité et que à l'origine c'est vraiment la voix des sans-voix, donc des femmes aussi, dès que le mouvement commence à se codifier et à avoir un certain succès à partir du début des années 80, ça va redevenir un milieu hiérarchisé et donc beaucoup plus masculin. Et plus violent d'après les dires des Riot Girls de l'époque. Et troisièmement, elles ne se reconnaissent pas non plus dans les féminismes qu'elles ont à leur portée à l'époque. Elles jugent ces formes de féminisme trop académiques, en tout cas, ça ne leur parle pas, ça ne leur parle pas de leurs expériences. Et donc, ce qu'elles veulent faire, selon les termes même de Alison Wolfe, qui est la chanteuse de Droite Mobile, c'est rendre le punk plus féministe et le féminisme plus punk. Et donc, elles vont, comme je disais, dans la ville d'Olympia, commencer à s'agréger, notamment grâce à des correspondances via Jigsaw, le fanzine de la bataille de Bikini Kill, et commencer à monter des groupes, dont les deux premiers seront Droite Mobile et Bikini Kill. Alors même que pour la très grosse majorité d'entre elles, enfin, on va vrai dire, il n'y a que Toby Vane qui a de l'expérience, elles n'ont jamais pratiqué la musique, ou en tout cas, elles sont vraiment novices. Et donc, elles vont utiliser leur fanzine au pluriel et leur groupe pour diffuser un message féministe, anticapitaliste, et quand je dis anticapitaliste, c'est-à-dire qui inclut toutes les formes le système qui génère toutes les formes d'oppression. Donc, quand je dis anticapitaliste, je dis aussi qu'elles sont antiracistes, elles font front sur toutes les bases de privilèges d'oppression, en fait. Et donc, peu à peu, elles vont s'agréger en collectif. J'anticipe un petit peu sur la suite, voilà, pour faire court, voilà un petit peu comment commun.
D'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé après les Riot Girls? C'est ça que tu dis, Cla? Donc c'est ça la question. Là. la fin et l'après Riot Girls, alors.
Ouh là là, mais c'est une longue histoire, ça. oui, non, alors donc en fait, parce que là j'ai vraiment dit l'étincelle de départ, mais ce qui s'est passé c'est qu'après, Bikini Kill et Droite Mobile ont voyagé pas mal à Washington DC, donc sur la côte Est, qui elle était très marquée par la scène hardcore et qui était vachement plus organisée politiquement. Et donc en fait, si l'esprit d'Olympia était très décomplexé, leur a permis de se lancer dans la production musicale alors qu'elles étaient vraiment novices, eh bien, pour le coup, la scène de Washington, qui est très organisée, leur a permis de développer des outils pour essaimer et pour construire des stratégies pour essayer de mobiliser le plus de jeunes féministes possible. Parce que leur but, il est affiché dans, dans leur slogan, qui est « Revolution Girls Time Now ». Il s'agit vraiment de faire une, révolution féministe à leur manière, c'est-à-dire pas du tout en termes d'une prise de pouvoir violente et d'un renversement subi, mais bien plus de, d'une évolution patiente qui se manifeste par l'addition de révolutions individuelles.
D'accord,
okay. Et l'accumulation de toutes ces révolutions individuelles. Donc pour elles, vraiment, leur objectif politique de, d'expansion, il est crucial pour cette révolution.
Ok, ok. Et du coup, d'ailleurs, toi, comment est-ce que tu es tombée sur ce mouvement-là ? Parce que du coup, dans l'après, il y a aussi la manière dont, dont à un moment, on peut réinterpréter ou revenir sur, sur une histoire punk féministe.
Oui, alors pour moi, en fait, il est jamais vraiment. Enfin, la forme initiale du courant a cessé d'exister. Mais d'ailleurs, souvent, on pense que c'est à partir de la moitié des années 90, alors qu'en fait, il y a autant de collectifs Riot Girls qui sont créés entre 95 et 2000 qu'entre 90 et 95. Donc, c'est une vision vraiment erronée de la chose. C'est juste que ces collectifs étaient vachement moins visibles. Moins médiatisé et parce qu'il le voulait bien également. Donc en fait déjà, l'idée selon laquelle ça n'a duré que 3-4 ans et même si ce livre peut participer de cette idée, elle est vraiment fausse. Et donc en fait, ce qui s'est passé en suivant, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes avec la manière dont les médias les ont représentés. Et c'était aussi de leur volonté dès le départ, en fait, c'est un courant qui s'est diversifié beaucoup plus, bien davantage qu'il n'a disparu. Et donc, à partir de. Donc, voilà, on va dire que sous la forme initiale, il a duré pendant toute la décennie 90 jusqu'aux années 2000, on va dire. Et puis, à partir des années 2000, il s'est exprimé différemment, notamment à travers l'apparition des Ladyfest, qui était des festivals féministes anticapitalistes pour la plupart autogérés, et qui existent toujours d'ailleurs, qui viennent encore eu, bien sûr, bien avant le Covid, mais même en 2019, il y en a eu, à partir des années 2000, le premier a été de l'année 2000, le premier a eu à Olympia encore, mais ensuite, comme c'était un concept qui était destiné à voyager, il y a eu des Ladyfest un peu partout dans le monde. Je pense qu'on doit en être à 300 ou 350 actuellement, voilà, en l'espace de 20 ans. Avec un petit creux dans les années 2010, et puis là, bizarrement, depuis 2015, ça repart. Et puis voilà, parmi les autres formes que prend le courant, mais en fait maintenant il est devenu vraiment pluriel, c'est-à-dire qu'il est vraiment devenu ce qu'il était puisque ça se voulait un mouvement protéiforme et qui pouvait être accessible au plus grand nombre. Donc il s'est aussi exporté dans d'autres genres musicaux et puis il y a des initiatives comme le Girls Rock Camp qui a aussi commencé en 2000 à Portland. Et puis qui, pour le coup, a eu vraiment un succès assez phénoménal aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Europe et en Amérique du Sud, qui sont des ateliers qui sont destinés à des très jeunes filles, pour le coup, entre de 7 à 18 ans, pour les initier à la pratique d'un instrument musical et pour qu'elles arrivent à jouer qu'elles commencent à jouer en groupe, en fait. Mais au-delà de ça, c'est aussi vraiment une initiation aussi à toute cette culture féministe qui les précède. Et puis, voilà, il y a des ateliers d'estime de soi, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est encore un autre pan de cette culture, mais c'est clairement vraiment l'héritage direct de tout ça.
On sent bien, en tout cas, que c'est pas juste une histoire de musique, mais que quand entre les paroles du début... dont tu parlais pour White Boy de Bikini Kill, c'est ce que tu racontes maintenant des Lady Fest et de ces moments de transmission musicaux aussi. On voit bien que c'est tout un monde quoi, autour de la question purement musicale.
Oui, carrément. Mais non, mais dès le départ, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que dans ces collectifs, il y avait des groupes de parole qui étaient organisés pour la plupart, c'était hebdomadaire, qui menaient des actions aussi politiques. Et puis, il y avait des fameuses conventions Riot Girl aussi qui ont initié ce qui s'est passé après dans les Lady Fest et qui se passe aussi pour les Girls Rock Camp. C'est-à-dire que non seulement il y avait des concerts, mais il y avait également des ateliers, des discussions avec cette volonté toujours de mutualiser les savoirs et les savoir-faire. C'était là depuis le départ en fait. Il n'y avait pas uniquement les productions musicales de Bikini Kill et Bradmobile. Il y avait vraiment une culture vraiment et des actions politiques dès le départ.
Moi, j'ai relu le livre là il y a pas longtemps, et encore une fois au début, quand j'ai lu le livre pour la première fois, c'était un moment très très fort. Je l'ai lu, c'était un été, je me souviens, et j'avais ce livre là, je me baladais, j'étais fière avec mon livre, c'était ma bible quoi, genre il était tout le temps sur moi, même si je l'ai lu très très vite puisque ça va vite quand même, 140 pages et beaucoup de je l'avais tout le temps sur moi, quoi. C'était ma Bible, quoi. Il ne pouvait rien m'arriver si j'avais ce livre sur moi, quoi. Il y avait une force dans ce bouquin. Là, je parle juste, voilà. Là, je dis mes sentiments sur mes émotions sur quand j'ai lu ton écrit, quoi. Manon. Et donc, je voulais te remercier.
merci à toi. Hein.
J'avais pas vraiment lu grand-chose, en fait, encore sur les Riot Girls. Même si j'avais écouté Bikini Kill et je me considérais un peu comme une Riot. Et quand j'ai lu ce livre, enfin c'était génial quoi. Bref, et très vite au début, je crois que c'est la deuxième page, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Clarisse. Ça parle de ce concept-là qui moi m'a vraiment parlé personnellement encore une fois dans ma vie. We can lie things into existence, que dit Kathleen Hanna. Et donc ce serait en français. On peut vérifier les choses en les mentant, c'est ça?
Je crois que c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai traduit, mais bon, peut-être une meilleure traduction anglaise. Si tu la trouves, n'hésite pas.
C'est un truc de fou, quoi, cette phrase, quoi.
C'est une phrase de Kathleen Hanna, oui, et c'est un peu vraiment un des concepts clés du mouvement aussi. T'as raison de le souligner. Oui, en fait, ce dont tu parles, c'est peut-être l'illustration aussi qui est au tout début du bouquin, qui je trouve.
Oui. Ça commence comme ça au tout début, la première image. Confuse truth with fiction, attempt to decentralize the manufacturing at truth.
Ouais, c'est ça.
Sorry for my bad English.
Que, ouais, elles se sont beaucoup. Il y a du situationnisme un peu là-dedans, elles sont vachement attachées en fait, tu vois, pour donner un exemple, par exemple, il y a un moment où Kathleen Hanna est interviewée par un grand périodique américain,
qui s'appelle Newsweek.
Ou en tout cas, donc c'est vraiment le tout début des Riot Girls, il doit y avoir vraiment une poignée de force en présence, et en fait, elle fait le pari de dire que des collectifs existent partout aux États-Unis, et que c'est vraiment, là, on est en train de faire une révolution de fou, on est déjà des cohortes entières de Riot Girls, etc., en estimant que peut-être que les jeunes femmes qui cherchent ces fameux collectifs dans leur ville ne les trouvant pas, vont se mettre à former le leur propre. Et il y a vraiment cette idée que, en fait, vraiment, on peut arriver à faire advenir les choses, je sais pas, elle dit ailleurs, en ayant tellement l'air sûr de soi que ça semble évident, quoi.
On y pensant très, très, très fort, quoi. En le souhaitant.
Pardon
Ouais, en y pensant très, très, très fort.
Oui, voilà, enfin, non, voilà, ou en fanfaronnant, comme c'est le cas pour Bratmobile, qui à la base se dit être un groupe, alors qu'elles n'ont jamais touché un instrument de leur vie, elles n'ont pas de groupe. Et puis, ben, elles vont être mises dos au mur quand un jour on les invite à jouer, et puis voilà, ben, elles se lancent, et puis ça va devenir des super compositrices, quoi. Enfin, bon, voilà, il y a cette idée vraiment qu'on peut faire des miracles en voulant faire advenir les choses aussi, quoi.
Non mais c'est génial l'idée de dire l'idée de mentir.
Mais disons non, que
perso, elle, je suis une grande mytho.
Non, mais c'est aussi.
Et quand j'ai lu ce papier, j'ai dit putain mais merci quoi, c'est vraiment mes copines quoi. Elles me soutiennent. Même dans mes.
Il y a aussi l'idée d'aller à l'encontre de cette idée de vérité qu'on nous présente et qu'on nous assène comme seule vraie.
Ouais,
alors que ben c'est beaucoup plus nuancé que ça dans les faits et que ben bon ben voilà vous avez votre vérité ben nous ben allez test si on lance celle-là de vérité pour voir ce qui se passe quoi il y a vraiment c'est vraiment une idée qui a joué un rôle très important dans leur démarche.
Idée brillante, pensez à mentir, ça peut vous sauver la vie parfois. Moi j'ai décroché un boulot comme ça en mentant.
Ben voilà tu vois.
J'étais dans un pays à l'étranger, je ne parlais pas la langue et en fait j'ai dit pendant tout l'entretien, j'ai soutenu que je parlais la langue en disant juste un seul mot dans la langue qui était oui.
Tu parlais quoi.
Oui, ben voilà.
La langue te parlait.
C'était pas encore Riot Girl. Putain, et quand j'ai lu le truc, je me suis dit mais c'est un truc de malade quoi, elle a trop raison la meuf quoi. Force, power quoi.
C'est comme ça que t'as détruit le patriarcat.
Yes.
Est-ce qu'on s'écouterait pas justement un petit son des Bratmobiles?
Ouais. Écoutons la voix de Pau.
Avec
le couche, le cool schmoul, par exemple.
Et ben voilà.
Et j'adore. J'adore ce morceau. Allez, on chante.
So cool, yeah, yeah. Allez, chouette. Hein.
Yeah, we're so cool, yeah, yeah.
We're so cool. Yeah, we're so cool, cool, cool. We're so cool, yeah, yeah.
Yeah.
Fuck you too, cool schmoo. Alors, ça parlait de quoi d'ailleurs?
Let's go watch the girl fight tonight. Ce que moi j'ai compris dans cette chanson, en tout cas, c'est que ça parle des gens qui ont l'air si cool, si in, si dans la mode, dans la mode, et qui en fait sont si loin des gens, si loin d'eux-mêmes et de leurs sentiments. Et ça finit comme ça: When you can't even tell me how you feel, and you can't even be my friend for real. Ces gens.
Et du coup, c'est le groupe, c'est Bratmobile.
Superficiel, si je peux dire un autre mot, ouais, je sais pas.
Ouais, Manon, ça parle du coup comme de, d'une des premières manifestations d'un système hiérarchique, en fait, aussi. Mais oui, c'est ça, enfin, c'est exactement ça.
Et en tout cas, moi, si je peux parler de ma scène bordelaise, je sais qu'à Bordeaux, ça se passe clairement comme ça, quoi. Je sais pas comment c'était... Comment c'était Olympia à l'époque, mais...
Bah, j'y étais pas, voilà. Malheureusement, donc.
Bordeaux, nous, c'est snob ici, quoi. Ça se la pète grave, quoi, et...
Et Manon, donc, du coup, dans la chronique là, que tu as écrite et tout, tu parles notamment de, ben justement de, d'une opposition avec la culture mainstream, en fait, qui se veut cool aussi. Tu parles de Nirvana, notamment, etc. Enfin, c'est... Tu peux
ouais, alors l'histoire, le mainstream, c'est, enfin, comment dire, bah, c'était le scène Riot Girls. Il faut dire que Nirvana, au moins deux des membres ont vécu à Olympia, et que c'est des gens qui étaient très proches des Riot Girls, et notamment de Toby Vane et de Kathy Nana. Et quand elles ont vu ce qui s'est passé avec Nirvana, ça leur a fait un effet repoussoir, voilà, tout ce qui... toutes les histoires de mainstream, justement, et de récupération médiatique, etc., et de pression, et du coup, de toute façon, elles étaient dès le départ très très attachées au do it yourself, c'est-à-dire cette idée que malgré le fait qu'on ait envie d'être accessible au plus grand nombre, on choisit malgré tout de ne pas se compromettre avec, par exemple, les médias, qui restent un des effets principaux du système capitaliste qu'elle vraiment audissent. Donc, après, c'est des gens qui ont pas mal lu aussi de théories sur ces questions-là, qui ont beaucoup réfléchi à ces questions de comment faire. D'une part être accessible et d'autre part ne pas se compromettre et tenter de ne pas se faire récupérer par un système qui digère ses marges pour mieux les réintégrer. C'est un gros nœud qui est aussi lié à l'époque où le grunge est devenu vraiment une machine à vendre, quoi.
Ouais, ok. Les filles, vous avez des questions qui vous venaient? Je crois que Cali, t'es toujours là?
Non, je voulais savoir un petit peu plus sur peut-être Vega Darling.
Attends, Vega Darling, remets-moi le truc. Peut-être.
Oui, pardon. Vega Darling, excuse-moi, dans le livre Riot Girl in Los Angeles.
C'est un docu vidéo, en fait, oui, pardon, sur les collectifs de Los Angeles, ouais. Voilà, que je n'ai pas vu ce film, donc je ne peux pas t'en parler non plus, parce que j'ai essayé de leur écrire quand j'ai écrit le bouquin.
Ouais, pardon, tu disais que tu n'as pas réussi à le choper, le docu.
C'est un documentaire vidéo, en fait. Et non, je ne l'ai jamais vu, j'aimerais beaucoup le voir, parce que, il a l'air hyper intéressant spécifiquement sur le collectif de Los Angeles, le collectif Riot Girl du début des années 90, qui était actif à Los Angeles.
Est-ce que vous voulez juste redire pour les personnes qui nous écoutent le titre du docu?
Vas-y, je te laisse le redire, je ne sais plus en tête.
Lost Girls, Lost comme Lost.
Ouais. C'est ça.
Yes, yes.
Lost Girls, un docu.
Lost Girls, Lost, et Girls avec 3 R à la Riot Girl, quoi. Okay. Et la personne s'appelle Vega Darling.
Ok. Et du coup, moi, j'avais une petite question qui était comment, après tout ça, alors c'est pas pour tenir absolument un fil chronologique, mais parce que ce dont on parle là, qui se passe du coup aux États-Unis, si je ne me trompe pas, comment à un moment donné ça passe sur la scène, là en l'occurrence, puisque nous cinq, on est en France, comment à un moment ça traverse l'Atlantique et que ça arrive jusqu'ici dans la culture féministe et punk d'ici?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Dès le tout début des années 90, le courant Riot Girl s'est exporté en Angleterre. C'est par le biais de journalistes notamment, mais il y a très rapidement un groupe qui s'est créé, je pense, en 92, en Angleterre, qui s'appelait Ugly Beer. et qui a tourné avec Bikini Kill en Angleterre aussi. Et en fait, du coup, par le biais de ce groupe et par le biais d'enregistrements qui ont été disponibles en Angleterre alors qu'ils n'étaient pas forcément ailleurs en Europe, il y a eu, dès la première moitié des années 90, vraiment une présence du courant Riot Girl sur le territoire du Royaume-Uni, avec, je crois, une quinzaine de collectifs, pas mal de fanzines, pas mal de groupes aussi. Et donc, dès le départ, ça s'est exporté en Europe comme ça. Et puis ensuite, en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que à partir des années 2000, c'est Internet qui a permis à l'info de circuler plus largement en Europe. Et donc d'essaimer un petit peu partout, notamment par le biais des Ladyfest aussi, qui on avait accès à l'info par le biais d'Internet, et du coup, comme le concept du Ladyfest est un concept destiné à être à voyager et à être à ce que des différentes communautés se le réapproprient, ça a été un vecteur efficace de l'expansion des idées Riot Girls en Europe.
Ouais. D'ailleurs, dans les années 2000, en France, il y a un super groupe Riot Girl qui s'appelle Crea Coerbos. Je sais pas si vous connaissez.
Crea Coerbos. Un morceau.
Crea Coerbos, enfin. Oui, tu connais Manon ?
Ouais.
Ça
me dit quelque chose, ouais.
Avec Géraldine en chanteuse qui habite à Bordeaux maintenant, la chanteuse de Cartouche également, la chanteuse de La Fraction.
Ouais, exact.
Et en tout cas, s'il y a moyen de passer No Somos Nada, nous ne sommes pas rien, je veux bien.
Eh ben ouais, ça me semble une bonne idée, on va essayer de trouver ça.
Ça, c'est l'année 2000, en fait. Hein. C'est l'année 2000. C'est pour illustrer ce que dit Manon aussi. Justement, je voulais parler des groupes Riot Girl de New York. Parler peut-être de l'intersectionnalisme dans le Riot Girlisme. On a mis un réalisme.
Bon, allez, on écoute No Somos Nada et après, on en discute.
Yeah!
Yeah.
Pero tú piensa por lo menos que tú vas a historia.
Après cette musique, sur Langue de Fronde, Fréquence Paris Pluriel, pour les 10 dernières minutes à peu près qui nous restent pour cette émission, on va peut-être évoquer comment c'est des années 2000 à aujourd'hui, puis un peu pour vous deux, Manon et Cali. On peut commencer par parler un petit peu de Crea Coerbos alors aussi, comme vous voulez.
Alors là, je laisse Cali en parler, du coup.
Oh purée, non, mais j'ai déjà dit à peu près... j'ai découvert ce groupe après avoir en fait rencontrer Géraldine au biais de Cartouche, qui est un groupe de punk, avec des mecs cis. Mais en fait, du coup, j'ai découvert que cette chanteuse de punk avait monté un groupe dans les années 2000 de punk féministe, quoi. Enfin, en tout cas, un groupe de meufs, quoi. Et là, c'est un morceau qui s'appelle donc No Somos Nada, Nous ne sommes pas rien, et No Pasarán. Elles étaient très dans les luttes antifascistes, en fait, de Paris. Donc, on les géolocalise à Paris, quoi, à Paname. Et puis, donc Raymonde, qui est une femme noire, musicienne, qui joue donc, de la basse.
Ouais.
Et en fait, je voulais juste rebondir un peu sur le féminisme noir dans le mouvement Riot Girl. T'en parles un petit peu avec, en évoquant New York et ce documentaire de Vega Darling.
Ouais.
C'est Los Angeles, hein, du coup.
Eh ?
C'est à Los Angeles, le docu de Vega Darling.
Yes. Et ben, je voulais savoir donc s'il y avait eu donc d'autres groupes, d'autres collectifs, d'autres groupes de Riot Girl noirs.
Oui, alors c'est un sujet qui a été épineux, notamment pendant la première partie des années 90, parce que en effet c'était un mouvement qui à l'origine était assez homogène. Et plutôt majoritairement blanc. Mais alors voilà, je trouve que c'est une question intéressante parce que ce que je dis dans le bouquin, c'est que la participation des girls de couleur au mouvement Riot Girl, en fait. A été carrément éclipsé par le fait qu'on reprochait à ce courant d'être majoritairement blanc. Enfin, je suis pas claire, mais disons que pendant les toutes premières années, hein, 2-3 ans, le mouvement était vachement homogène. Mais donc tu parles de Los Angeles, qui était un collectif qui, pour le coup, était travaillait en étroit lien avec les punks chicanas et Black Panthers de Los Angeles. Donc déjà, quand on dit que c'était un mouvement majoritairement blanc, on n'évoque pas ce genre d'exception qui passe du coup à là, c'est qui le rend encore plus blanc que blanc. Et deuxièmement, je trouve que à partir des années 94-95, il y a beaucoup de gens qui ont fait avancer ce courant, justement en le critiquant, en fait, et qui ont proposé leur version des choses. Je pense notamment à Mimi Tien Vuyen, qui a produit vraiment une critique, elle est devenue universitaire, mais avant ça, elle a produit une critique dans ses fanzines, justement sur ces questions-là. Et je trouve qu'en fait, à partir de 95, il y a un nombre incalculable de zines faites par des girls de couleur qui donne de la voix à tous ces gens qui ont été éclipsés et qu'on continue d'éclipser en disant que c'était un courant blanc. Du coup, voilà, je pense à des fanzines comme Slant, comme Gunk, comme Bamboo Girl ou Mamacita, je trouve, ont justement permis, encore une fois, que ce mouvement continue d'exister. En évoluant, en prenant de nouvelles formes. Et d'ailleurs, la vitalité de ces critiques et la profusion de ces critiques, on peut le voir dans l'édition de compilation Zine comme Evolution of Race Riot, qui justement est produit par Mimi Tien Vuyen. Et voilà, c'est un peu, je trouve qu'il faut un peu nuancer le tableau. Mimi Tien Vuyen dit je ne sais plus où, que en gros on présente souvent la participation des girls de couleur dans une sorte de chapitre qui du coup serait une histoire accessoire, alors que vraiment l'histoire co-présente, il faudrait vraiment l'étudier et la raconter, quoi. Je sais pas si j'ai répondu correctement à la question.
Yes, carrément, ouais, merci beaucoup. Ouais. Donner plein de références que j'ai pas pu tout noter, mais bon, c'est trop cool.
Et en même temps, il y a tout le mouvement afro-punk qui existe à la fois aux États-Unis et en Europe, qui justement fait valoir justement le côté punk des personnes racisées, il me semble.
Carrément. Il y a aussi un truc qui s'appelle People of Color Zine Project. Et qui là justement c'est plutôt sur les zines, mais qui a fait je sais pas s'ils sont encore actifs, mais qui fait un boulot super d'archivage et de diffusion de zines de People of Color. Voilà, clairement aussi il y a une grosse partie post Riot Girl, mais qui s'identifie pas forcément comme telle, mais il y a une filiation, notamment avec des gens comme NBM.
On va peut-être en fait essayer de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure ou d'écouter je sais pas, là il nous...
Oh là là, c'est tellement
c'est
de choses.
Eh ouais. C'est dur de conclure, mais...
Moi, pour conclure, je dirais bien que l'idée des Riot Girls selon laquelle... la créativité et la prise de parole est un moyen révolutionnaire, elle est toujours hyper d'actualité, et que je trouve que face à un système qui fait se taire et qui met des barrières dans les cerveaux et qui empêche la créativité, résister, créer, c'est vraiment un bon moyen de résister et parler et agir, en fait, vraiment dans l'esprit DIY, et je trouve que on en a vraiment besoin.
Yes.
Carrément.
Voilà un beau mot qui donne de l'espoir.
On va se dire au revoir, et ensuite on écoutera de la musique.
Mais ça roule. Un grand merci. Hein.
Merci. Ciao.
Merci à vous.
Salut tout le monde. Ciao. Du coup, on se quitte avec Champion, Le Coq est mort, et Heavens to Betsy. Decide. Yeah. Po, po, po.
Ciao.
Thank you.
Hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Le coq est mort.
Le coq est mort, on voit l'angle de fronde.